Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Comment accompagner les émotions des enfants, les émotions désagréables comme la peur et la colère? Nos experts vous proposent des outils simples et concrets pour vous aider à les surmonter. Attention, l'idée n'est pas de les éradiquer car elles sont des signaux d'alerte pour les parents et les enfants, des signaux qu'il faut apprendre à anticiper. Nous reviendrons notamment sur les processus qui mènent à la colère. Nous verrons celles qui sont normales et celles qui sont anormales. Comment devancer ces vagues de colère, comment les apaiser en évitant l'escalade et en se préservant. Nous attendons vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Quel est le menu de votre chronique Ma vie de parent?
Bah, moi aussi je vais parler émotions, mais moi ce sera avec mes outils un peu moisis pour les gérer. Quoi.
D'accord. À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rébéi. Grand bien vous fasse.
Comment ça se passe? Est-ce que vous tapez ou vous insultez vos parents?
Moi, je les insulte juste un peu.
Juste un peu?
Moi, j'insulte.
Pendant que les colères ou même en dehors des colères?
Que les colères.
Que les colères. D'accord. Là, on peut se le dire, mais normalement, vous savez qu'on n'insulte pas ses parents.
Mais c'est juste des mots.
Ah, c'est juste des mots. Ça veut dire que c'est moins grave que frapper?
Ben oui. Après, quand on grandira, on comprendra qu'il faudra pas le faire.
Ah bon? À quel âge, à ton avis?
21, 22 ans.
Extrait de complément d'enquête en juin 2018. On va essayer de faire en sorte que ça ne dure pas jusqu'à 21, 22 ans. Bonjour, professeur Anne-Réva Lévy.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre et chef du service pédopsychiatrie à l'hôpital d'Argenteuil. Bonjour, docteur Vincent Henry. Bienvenue.
Bonjour, merci.
Vous êtes pédopsychiatre au CHU de Montpellier, en duplex de France Bleu à Montpellier. Vous avez développé la plateforme internet enfance-émotion.fr. Bonjour Christelle Vernet.
Bonjour.
Vous êtes psychologue au CHU de Montpellier et vous publiez ensemble chez Tom Pouce un livre très pratique, une boîte à outils. Ça s'appelle 100 idées pour accompagner les émotions des enfants et des adolescents. Alors Vincent Henry, Christelle Vernet, l'idée ce matin, ce n'est pas d'éradiquer les émotions dites désagréables. Hein. La peur, la colère, la tristesse sont des émotions essentielles au quotidien.
Oui, tout à fait. Vous avez bien raison de commencer par dire cela. Au contraire, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il est important de les écouter, de les accueillir et que c'est la première base pour pouvoir justement accompagner les enfants. Après, ce que l'on propose, ce sont plutôt des solutions pour faire en sorte que cette vague émotionnelle, quand elle arrive, soit la plus douce possible.
Anne-Réva Lévy.
Je voudrais revenir une seconde sur l'extrait que vous avez passé là en début d'émission et faire un lien avec l'époque actuelle. Je suis désolée parce que quand on parle de colère et d'émotion, c'est difficile de pas intégrer la réflexion sur l'état émotionnel des enfants et des adolescents en ce moment sans regarder comment les adultes se comportent. On est dans une période qui dure et qui se généralise un peu où les adultes on considère qu'ils peuvent dire absolument n'importe quoi de manière violente, crue, brutale, haineuse, raciste, disqualifiante, les hommes politiques les premiers. Et il y a une espèce de généralisation où il y aurait un droit à l'expression de la colère, de la haine même. Bon, donc il y a quand même quelque chose qui s'est détérioré dans l'interaction des adultes entre eux et dans la représentation de ce que c'est la gestion de la colère, du désaccord, du conflit. Donc à partir de là, quand on essaye d'envisager comment accompagner les enfants dans la reconnaissance de ce que c'est un conflit, une colère, une émotion, bah il faut aussi réfléchir à comment on donne un peu l'exemple et qu'est-ce qu'ils voient et comment ils se nourrissent autour d'eux de ce qu'ils voient. Voilà, c'est juste ma petite réserve.
Vincent Henry, c'est intéressant ce que nous dit Anne-Réva Lévy.
Tout à fait. C'est vrai que nous on accompagne dans le service où je travaille des familles où il y a effectivement des troubles du comportement et des émotions extrêmement fortes et du coup avec parfois des comportements ou des propos violents des enfants. Et dans un des groupes qu'on propose pour les parents, parce que bien souvent dans ces situations-là aussi, les enfants ne veulent pas forcément venir, hein, parce qu'ils disent « mais c'est pas moi le problème, c'est mes parents », on travaille beaucoup sur la justement comment les parents se positionnent vis-à-vis de leur enfant. Parce que très souvent, vous avez dit le mot tout à l'heure, il y a la question de l'escalade, c'est-à-dire que la relation entre le parent et l'enfant est troublée, et il y a un cercle vicieux qui s'est engagé, et du coup, on n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux-là, c'est-à-dire qu'on s'en veut d'avoir réagi de telle manière, l'enfant nous en veut aussi, du coup, il part beaucoup plus rapidement, quand il part rapidement, on s'énerve encore plus, etc., etc. Et c'est très très compliqué de sortir de ça. Chacun des que ce soit les parents ou les enfants qui se retrouvent un peu du coup au même niveau, quelque part alors qu'ils ne devraient pas l'être, attendre que le premier et l'autre bouge, hein. Il n'a pas à me dire ça, il n'a pas à me faire ceci, il n'a pas à faire cela, et les enfants disent pareil. Et donc c'est un petit peu compliqué. Donc on travaille avec les parents sur justement faire attention à soi, à notre manière de dire les choses, en reprenant plus généralement qu'est-ce que c'est que nos valeurs, quelles sont nos valeurs éducatives, sur quoi on veut, qu'est-ce qui est important au final pour nous. Et voilà, c'est un travail qui est compliqué, mais qui est très très intéressant, très enrichissant pour nous aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces groupes.
Gwenaëlle Boulet.
Oui, c'est ça, c'est que je trouve que souvent on demande aux enfants de savoir gérer des choses que nous-mêmes adultes ne savons pas gérer. Quand vous regardez le nombre d'adultes qui sont absolument incapables de gérer les colères, de redescendre de leur colère, le nombre de mots qui peuvent sortir au moment des colères, c'est-à-dire on a bien compris que c'était un état émotionnel qui n'était pas normal, mais qu'est-ce qui reste d'une colère, quelles sont les traces qui restent après quand on a prononcé tout ça. Donc on demande souvent, je trouve actuellement aux enfants, de savoir gérer des choses qu'on ne sait pas forcément nous gérer. C'est le cas des écrans, c'est le cas des émotions, etc. Je trouve ça très intéressant parce que travailler sur l'émotion des enfants, c'est avant tout travailler sur la nôtre. Quoi.
Et récemment, la gifle de Will Smith aux Oscars en est un exemple. Tout à fait. Éclatant, Vincent Henry.
Oui, oui, c'est sûr, on voit bien là. Alors, bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans sa tête, hein, mais il y a clairement. Est-ce que c'est un manque de contrôle de soi? C'est vraiment compliqué avec en plus les aspects de médias, de comment les choses vont être reprises, etc. C'est sûr. En tout cas, ça illustre bien le fait que la régulation des émotions, c'est aussi très important pour les adultes.
André Valévy.
Sur la période de guerre actuelle, les adultes sont branchés 24 heures sur 24 sur des images d'une violence inouïe qui font peur aux enfants. Et la peur se transforme en colère qui n'est pas très bien dirigée. Ils ne savent pas contre qui ils sont en colère. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'il y a un mélange actuellement d'une intensité pour tout le monde, qui fait que les enfants ont à gérer des choses qu'ils n'identifient pas bien. Et parfois, la colère est l'expression de quelque chose qu'on n'a pas bien identifié, mais qui n'est pas au fond de la colère, qui est le débordement d'un mélange de tristesse, d'incompréhension, d'isolement, qui va, par accumulation, s'exprimer sous forme de colère, mais qui, au départ, n'est pas nécessairement de la colère, mais plutôt cette accumulation.
Christelle Vernet, rappelez-nous le rôle essentiel de la colère, de la peur à bonne dose.
Alors oui, je rebondis aussi sur ce que disait le professeur Eva Lévy. C'est en effet, pourquoi c'est important? C'est parce qu'il faut identifier bien et distinguer les différentes émotions, puisque comme elle le disait, c'est des fois un débordement émotionnel qui va se transformer en colère. Et puisque le rôle de nos émotions, c'est de pouvoir s'adapter à notre environnement, c'est-à-dire s'adapter à la fois à des événements qu'on est en train de vivre ou faire face à un objet qui nous fait peur, comme par exemple des images, ou encore réagir face à une personne qui ferait quelque chose avec lequel on serait en désaccord. Et à ce moment-là, la manière dont on exprime notre désaccord va être de la colère. Donc c'est important qu'on puisse exprimer nos émotions pour réagir face aux événements qui nous entourent. Le problème, c'est lorsque l'on va mal identifier ses émotions, où on va être, chez l'enfant, c'est normal, de par le développement, pas encore en capacité de les distinguer les unes des autres, et où, là, les émotions vont s'entremêler, et où ces débordements, ces crises émotionnelles vont amener des comportements que nous, on appelle inacceptables, et que l'on entendait, par exemple, dans l'extrait que vous avez diffusé au début de l'émission.
Alors, les émotions sont complexes. Prenons un exemple. Un enfant est invité pour la première fois chez un copain ou une copine pour dormir. A priori, l'émotion qui prédomine, c'est la joie. Et pourtant, il ou elle peut ressentir de la peur, de l'appréhension, une certaine colère. L'enfant peut refuser de faire quelque chose ou s'énerver sur un sujet a priori anodin. Christelle Vernet, Vincent Henry, les parents doivent se questionner sur ces événements alors que voilà, c'est un événement a priori joyeux. Eh bien non.
Tout à fait, c'est là où ça va être important en tant que parent de prendre le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe, parce que des fois on va nous comment dire, donner, avoir l'idée d'une émotion que l'enfant ressent et donc être complètement dépourvu face à la situation puisqu'on pensait que c'était quelque chose qu'il attendait. Donc c'est là que la première chose à faire va être vraiment d'essayer d'écouter et de comprendre pour permettre à l'enfant d'expliquer ce qui lui fait peur. Parce que si on lui dit mais non, ne te mets pas dans cet état, c'est une bonne chose, c'est chouette, ça fait longtemps que t'attends d'aller chez ton copain et non, ne fais pas cette crise, et voire même on accentue en disant si tu continues, tu n'iras pas. À ce moment-là, l'enfant ne peut pas nous expliquer que ben quand même il a un petit peu peur parce qu'il a jamais dormi en dehors de chez lui.
Alors on peut aider peut-être les enfants à exprimer leurs émotions. On peut par exemple utiliser la météo des émotions, mais il existe quantité d'outils pour les aider, des gestes, des couleurs, l'utilisation de personnages ou d'animaux. C'est un travail de longue haleine, hein.
C'est un travail de longue haleine et en même temps c'est en fait assez simple parce que ça passe alors quand les enfants sont en capacité de verbaliser les choses mais par tout simplement par la question mais qu'est-ce que ça te fait là comment tu te sens qu'est-ce qui se passe alors des fois ils arrivent pas forcément à mettre les bons mots et ils vont voilà mais du coup après on va pouvoir discuter avec eux oui peut-être que tu te sens comme si par rapport à telle chose ou peut-être que c'est normal quelque part que ça te fasse un petit peu ça. C'est extrêmement important de faire cette étape de validation des émotions et de rechercher les émotions parce que on peut avoir tendance très vite à vouloir rassurer et en fait si on le fait trop vite on n'écoute pas l'émotion des gens et c'est la même chose pour les adultes quand quelqu'un vous dit et ça nous arrive nous en consultation je me sens coupable par exemple un parent qui va vous dire je me sens coupable par rapport à ce qui se passe pour mon enfant ou telle chose il y a des on va avoir tendance on veut rassurer mais non vous inquiétez pas c'est pas vous et vous voyez en faisant ça on laisse pas la place finalement à l'émotion de ce parent et ce parent se sent pas forcément entendu. Donc c'est important de pouvoir dire bah ouais vous avez cette émotion depuis combien de temps et ok ouais d'accord tous les jours vous avez cette émotion donc vraiment de lui faire une place parce que sinon elle reste là et si on la travaille pas c'est dur d'avancer dans la problématique.
Professeur Anne-Réva Lévy.
Il y a autre chose, c'est que l'intérêt pour les émotions de l'enfant, c'est pas un intérêt qui doit tomber comme ça brutalement au bout de quelques années. C'est quelque chose qui peut débuter assez tôt dans la verbalisation, dans le partage, où un parent peut, et c'est ce qui se passe avec les bébés, le parent va communiquer avec le bébé autour des émotions que lui ressent le parent en le nourrissant, en le berçant, et ce partage émotionnel de la part de l'adulte va être tout un apprentissage émotionnel aussi pour le bébé qui se construit. Et progressivement, l'adulte va s'intéresser aux émotions de l'enfant, même avant qu'il puisse en verbaliser quoi que ce soit, en partageant lui-même ses émotions d'adulte. Et c'est sur ce terrain-là qu'il va y avoir une possibilité pour l'enfant, à un moment, de dire quelque chose de ce qu'il ressent.
Gonelle Boulay.
Oui, non, mais j'enchaîne là-dessus, parce que je crois que c'est important de pouvoir s'autoriser de parler de nos propres émotions avec nos enfants. C'est tout bête, mais de pouvoir dire, aujourd'hui au travail, j'ai eu un conflit, je suis pas bien avec, j'ai peur, je commence quelque chose de nouveau, à la fois je suis en joie, c'est la même chose pour nous adultes, on peut être et en joie de faire quelque chose et avoir de l'appréhension. Et je crois que de se permettre dans la vie quotidienne, que les enfants voient que nous aussi, on peut vivre ces émotions, voilà, on s'autorise de parler de ça, je crois que c'est important. Et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait une grande école de psy pour pouvoir partager ça avec ses enfants. Quoi.
Alors Vincent Henry, Christelle Vernet, vous utilisez une métaphore très intéressante dans votre livre, c'est la vague des émotions. Pourquoi cette métaphore est intéressante ?
Elle est intéressante parce qu'elle illustre bien le développement de l'émotion et comment elle se passe dans le temps et comment du coup elle peut aussi dévier si on n'y fait pas trop attention ou si on reste justement dans le processus d'escalade, qu'on reste dans le conflit, cette vague va monter et puis une vague quand elle monte trop après elle déferle et donc cette illustration elle parle bien aux enfants et également aux parents et on s'en sert vraiment dans les consultations, dans les groupes thérapeutiques qu'on fait. Donc c'est vraiment une manière assez simple d'illustrer le mécanisme physiologique, physiopathologique des émotions.
Comme une vague, une émotion est dotée d'un début, d'un pic et d'une fin. Prenons l'exemple de la colère. Comment voir venir ces vagues? Comment s'y préparer? Alors, vous l'expliquez dans votre livre, on peut construire des digues, c'est-à-dire anticiper, mais on peut également nager ou surfer sur la vague, c'est-à-dire changer la perception de l'émotion.
Oui, c'est ça qui est important, c'est de se dire aussi que on peut pas toujours tout anticiper, parce que à ce moment-là, ça risque aussi de rajouter une pression supplémentaire aux parents et donc encore plus de culpabilité, donc des émotions négatives, et là on sera complètement en incapacité de faire face à la situation. Donc en effet, anticiper lorsque c'est possible, et c'est quand même souvent possible si on observe les comportements de l'enfant, puisque les situations qui déclenchent ces crises sont assez récurrentes. Et à ce moment-là, on peut agir sur la situation. L'exemple que l'on prend souvent, ça va être l'arrêt des jeux vidéo pour les adolescents, par exemple. Et puis, il y a des fois où on ne peut pas anticiper parce que la colère arrive de manière trop abrupte, où on était occupé et on n'a pas vu les choses arriver. Et à ce moment-là, de pouvoir détourner un petit peu cette vague, essayer de surfer dessus, encore une fois, en écoutant l'enfant et en lui proposant des alternatives, en essayant de construire ensemble ce qu'on appelle la résolution de problèmes, et donc en échangeant. Et puis parfois, ça part, malgré tous ces efforts-là, ça peut atteindre un certain pic que l'on appelle crise. Et d'aussi accepter ça, en fait, d'accepter que des fois, on a beau essayer d'avoir mis en place des choses, on atteint un pic, et à ce moment-là, on peut aussi attendre que la vague passe, parce que comme vous l'avez dit, la bonne nouvelle et la métaphore de cette vague aussi, c'est le fait qu'à un moment donné, ça passe et ça va s'arrêter.
Concernant les signes de la colère, il est important de repérer les premières tensions. Hein, il faut apprendre à les repérer, ces premières tensions.
Tout à fait. Encore une fois, dans les prises en charge qu'on propose aux parents aussi, c'est de repérer ces signes qui peuvent être présents chez l'enfant ou chez eux. Je commence à parler plus fort, je tremble un petit peu. Il y avait un parent qui me disait « j'ai chaud dans la nuque ». Donc ça dépend de chacun. Mais quand on repère ça, ça permet justement de faire un petit peu, de prendre un peu le contre-pied, de sortir un petit peu de la situation dans laquelle on est. Et du coup, de se dire, oula, là, on est en train de monter, là, on est en train de s'énerver pour rien, et pour une histoire de chaussures mal rangées, on va finir à se dire des choses horribles. Et donc, réussir à stopper cette escalade, stopper cette vague, et faire que ça reste une vague et pas un tsunami, quoi.
Vous avez un conseil pour le plus vite possible stopper l'escalade de la colère?
Alors, il y a un petit point quand même, c'est que, on le dit souvent aussi, je trouve que c'est important de le dire aux familles, on est bien gentil là derrière notre bureau, faites comme ci, faites comme ça. Ces crises, elles ont aussi lieu chez nous.
Vous nous rassurez.
Parce que c'est très difficile, vous l'avez dit, les émotions on vit avec, elles sont avec nous, elles sont à l'intérieur de nous, on peut pas les contrôler. On essaie de s'adapter, entre guillemets. L'idée, en tout cas, c'est quand on le repère, si on repère que là, on arrive à faire ce décalage, à se dire, oula, là, je suis en train de m'énerver, là, c'est en train de monter, ça ne sert à rien, de s'isoler. Ou en tout cas, de pouvoir dire à l'enfant, écoute, je suis pas d'accord avec ce que tu as fait, ou je suis pas d'accord avec ce qui vient de se passer. Par contre, là, ce qu'on est en train de faire, c'est pas bien, j'ai pas envie de me disputer avec toi. Donc, on va arrêter. Mais on en rediscutera peut-être à un autre moment où il y aura des conséquences par rapport à ce qui s'est passé, mais je veux plus en parler maintenant, et de s'isoler, de casser, entre guillemets, ce match de tennis. On prend aussi beaucoup cet exemple avec les parents. Il y a une illustration aussi dans le livre là-dessus. Parce que c'est ça, c'est un match. On se retrouve au même niveau que l'enfant, alors qu'on ne devrait pas être au même niveau que l'enfant puisqu'on est son parent.
Quelle est la différence entre une colère normale, et une colère anormale?
Cette question de normalité, c'est toujours un petit peu délicat, mais en tout cas de classique, d'habituel dans l'enfance. Ce qui va être important aussi, c'est de se dire qu'en fonction de l'âge de l'enfant, cette réponse-là va varier, puisque comme on le dit dans le livre, un enfant petit n'a pas forcément les mots et une compréhension correcte de ses émotions pour pouvoir l'exprimer, et donc va pouvoir avoir des gestes brusques ou des mots qu'il ne comprend même pas, et à ce moment-là, ça sera moins anormal que chez un enfant plus grand. Mais en tout cas, ce qui va définir le fait que ce soit classique ou non et qu'on puisse s'en inquiéter ou pas, ça va être l'intensité de ces crises, c'est-à-dire à quel point elles sont fortes, mais aussi leur fréquence, c'est-à-dire qu'un enfant qui se met en colère de temps en temps, comme on l'a dit, c'est normal, et même si la crise est forte de temps en temps, parce qu'il est particulièrement fatigué ce soir-là, ou parce qu'il est déçu, parce que ce qui était prévu, qui lui tenait vraiment à cœur, a été annulé, c'est normal, encore une fois.
Et c'est quand la colère anormale, c'est quand elle est disproportionnée par rapport à la situation.
C'est ça, et quand l'impact aussi est très important dans la vie familiale, c'est-à-dire que quand des parents viennent nous voir et nous disent là, on n'en peut plus, ça détériore notre relation, on est fatigué, nous-mêmes, on en pleure tous les jours, on se questionne beaucoup. À ce moment-là, ça va être important de pouvoir demander de l'aide à l'extérieur aussi. Et des fois, il vaut mieux ne pas trop attendre et pouvoir être accompagné et rassuré rapidement, plutôt que d'attendre que ça s'installe. Et là, ça peut être plus compliqué de changer ce schéma de communication.
Pardonnez-moi, allez-y.
Oui, non, je voulais juste rajouter, on a évoqué plusieurs fois la question des illustrations et des métaphores. C'est un outil hyper intéressant pour l'accompagnement des enfants. Les enfants, d'autant plus parce qu'ils sont vraiment encore beaucoup dans l'imaginaire. Et puis, des parents aussi, parce que ça permet de voir les choses, entre guillemets, différemment. Nous, on a mis une place importante dans le livre aux illustrations. Et je remercie à ce propos Cléo Germain et Raphaël Chabassol, qui sont les illustrateurs... qui sont de très bons amis et qui sont des illustrateurs qui nous ont accompagnés dans le livre, parce que clairement des fois on dit les choses beaucoup mieux avec des images qu'avec des mots, et ça parle beaucoup aux parents aussi, ces illustrations ou ces métaphores. C'est un élément complémentaire et intéressant.
Anne Révalévi.
Oui, je voudrais dire quelque chose sur les colères trop importantes ou trop répétitives ou trop ceci, trop cela. Il faut quand même avoir en tête qu'un enfant qui manifeste un niveau de souffrance important, on doit se poser la question de qu'est-ce qui se passe, sans inférer que c'est une contrariété disproportionnée, que c'est une frustration. Et éventuellement, je suis désolée d'être un peu insistante là-dessus, mais il y a des enfants qui vous diront pas qu'ils sont harcelés à l'école, qui vous diront pas qu'ils ont été brutalisés, qu'ils ont subi une violence sexuelle par un adulte. Et donc, il faut quand même, avant de se demander comment supporter la colère, il faut peut-être se demander si son enfant a pas subi quelque chose, s'il a pas quelque chose à dire qu'il arrive pas à dire. Et je dirais la même chose pour les enfants qui ne disent plus rien, parce qu'il y a des... On parle beaucoup des enfants qui manifestent, qui font du bruit et qui font suer toute la famille, mais posez-vous autant de questions sur les enfants qui deviennent tout sympas... Qui ne se mettent jamais en colère, qui sont tout silencieux, qui font jamais de bruit. C'est pas pour ça qu'ils vont mieux et qu'ils doivent pas se... Vous devez pas vous en préoccuper. Voilà.
Allez, dans quelques instants, des outils pour accompagner la colère de vos enfants ou de vos petits-enfants. Ce sera juste après Oasis, Wonderwall, à 10h28. C'est simple.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. About you now. And all the roads that lead you there were winding.
qu'est-ce que c'est bon, Oasis, Wonderwall? C'était plutôt Blur ou Oasis, Gonelle Boulet?
Ah, moi, j'ai jamais choisi.
Ah, mais comme moi, pareil.
Je suis très consensuelle.
C'est moi, milieu. Non, c'est ma place, non, c'est
grand bien vous fasse.
J'en ai marre. Si c'est ça, je vais pas à l'école.
Ali Rebéi.
D'accord, et j'écris quoi, ma seule mot d'excuse? Absent parce que pas assis au milieu?
Sur France Inter.
Comment accompagner les émotions dites désagréables des enfants? C'est notre thème ce matin. Coup de projecteur sur la colère. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale. Écoutons Éléonore qui avait presque 2 ans dans les maternelles en 2019.
Si t'as plus faim pour ça, t'as plus faim pour le dessert. Hein, c'est comment ça marche? Et tu tapes pas. On fait pas de gestes méchants. Tu vas ramasser ta cuillère. Tout de suite, c'est souvent source de cris et de crises de la part d'Éléonore. Non, je veux pas finir. Non, je veux pas de dessert. Non, je veux pas rester à table. Je veux la télé en mangeant.
Face aux crises d'Éléonore, Angélique a une solution, la chaise de colère.
Allez. La chaise, elle est là pour qu'on aille se calmer. Elle peut dire ce qu'elle veut, elle peut dire quand elle n'est pas bien, et c'est pas une punition, la chaise. C'est vraiment pour expliquer et pour exprimer ce qu'elle ressent. Voilà.
Extrait de la maison des maternelles en septembre 2019. Christelle Vernet, docteur Vincent Henry, professeur Anne Révalévy, que pensez-vous de cette chaise de colère? Docteur Vincent Henry.
Oui, parce qu'on...
Christelle Vernet, vous êtes à Montpellier, à France
oui,
Bleu Montpellier.
C'est ça. Du coup, pour la chaise de la colère, alors c'est vrai que c'est un outil dont on a beaucoup entendu parler ces 10 dernières années, je dirais, sur lequel on va pouvoir nous, on n'a pas vraiment un consensus et on va penser surtout que ça va être à adapter en fonction de l'âge, puisque ce qui va être important, c'est de se dire quel est l'objectif de cette chaise et si l'objectif c'est que l'enfant comprenne, un enfant de 2 ans va par exemple être en difficulté pour comprendre, puisqu'il n'y a pas vraiment de lien entre l'action qui lui est reproché et ce qu'on lui demande de faire et le fait de se retrouver sur une chaise. Donc voilà, il y a vraiment cette notion d'importance du lien entre la réaction du parent et l'action de l'enfant. Et puis il va y avoir autre chose, c'est que par contre ce que disait bien cette maman, c'est que c'est pas une punition, c'est un endroit pour réfléchir et pour pouvoir s'exprimer. Donc c'est très important aussi de prendre ça en compte, mais à ce moment-là de pouvoir accompagner l'enfant dans l'expression de cette émotion, puisque un enfant seul sur une chaise est pas en capacité de pouvoir réfléchir et de se remettre en question sur ce qui vient de se passer, surtout si à ce moment-là il est très très en colère.
Et on ne juge pas cette maman qui utilisait cette chaise de colère.
Comme le disait le professeur Vincent Henry tout à l'heure, on est nous-mêmes parents et on a aussi des difficultés parfois à appliquer tous ces conseils que l'on donne.
André Valévy.
Un petit mot sur le développement. À 2 ans, quand on se met en colère et qu'on refuse tout, on teste son pouvoir sur le parent. C'est un moment normal. Si on le fait pas là, c'est qu'il y a un petit problème de développement. Au contraire, c'est le moment ou jamais. C'est même le moment où il faut que le parent le supporte. La chaise de la colère à 2 ans, ça n'a pas grand sens pour un enfant de 2 ans qui lui essaye de voir jusqu'où il peut aller et jusqu'à quand ça tient ou ça tient pas. Donc c'est pas pareil quand on a 5 ans de se retrouver sur une chaise de colère pour réfléchir. Quand on aurait 10, ça n'aurait pas tellement de sens non plus. 15, plus du tout. Donc bon, il y a quand même des moments développementaux où il faut expérimenter un peu son pouvoir sur l'autre. Quand on est petit, 15 mois, 3 ans, et puis à l'adolescence aussi, il y a des moments de colère pour expérimenter son opposition et sa capacité de conflit sur ses parents. Tout ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête, qui nécessitent pas non plus de mettre en place des chaises de colère.
Que pensez-vous justement des punitions, Vincent Henry? Plutôt que de punition, vous préférez parler de réparation,
Ouais, alors c'est rigolo parce que c'est une question qui a fait débat un peu quand on a écrit le livre avec Christelle, parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes représentations et les mêmes on a discuté, on a fait un compromis pour rédiger cette idée. Il y a plusieurs problèmes dans la punition. C'est que alors on peut prendre des exemples pour illustrer cette problématique, c'est que prenons la théorie entre guillemets. Si on met une punition, si on donne une punition à un enfant, l'idée c'est qu'on espère que deux semaines après, un mois après, l'enfant se souvienne entre guillemets que quand il a fait telle chose, eh bien, il a été puni, que donc il se dise, oulala, la dernière fois j'ai fait ça, je me suis fait punir, donc là je vais pas le faire. Sauf que là encore, bon, ça dépend de l'âge, mais les enfants sont ils ont du mal, ça peut être difficile pour eux de se rappeler de ces choses-là. Et donc l'exemple qu'on prend d'ailleurs dans le livre, c'est de l'enfant qui est content de sauter dans les flaques, qui saute dans la flaque, et le parent qui, tu te rends compte, tu t'es sali pour la peine, t'es privé de je ne sais quoi. Là, le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'anticipation du tout. Et c'est-à-dire que l'enfant n'était pas prévenu, entre guillemets, qui allait avoir cette punition. Donc une première étape serait de dire à l'enfant, attention, on va aller dehors, il y a peut-être des flaques, je ne veux pas que tu te salisses. Donc déjà, vous voyez, c'est une première étape, c'est de dire que l'enfant va être prévenu, entre guillemets, qui risque quelque chose. Après, oui, le symétrique inverse de la punition, c'est la question du renforcement positif, ou en tout cas plutôt de dire, bah, c'est de dire, voilà, je sais que cette chose-là, c'est très compliqué pour toi. Pour moi, par contre, c'est très important. Donc, si tu arrives à le faire, bah, vraiment, je serais très contente. Ou du coup, on aura peut-être plus le temps pour faire telle autre chose ou telle autre chose. Donc, il y a un aspect plutôt valorisant. Voilà. La réparation, c'est de que la punition, entre guillemets, est en lien avec la bêtise. C'est-à-dire que s'il a cassé... je sais pas moi, s'il a cassé un vase, et ben ça va être de le recoller, ou ça va être de qu'il prenne un petit peu sur son argent de poche pour le racheter, par exemple. Enfin, il y a un lien direct entre je répare entre guillemets ma bêtise ou je répare ce que j'ai fait.
Bonjour Ornella, bienvenue.
Bonjour. Merci.
Alors, il paraît que vous venez d'assister à une colère.
Bon, c'est quotidien, c'est même plusieurs fois par jour des fois.
Racontez-nous.
Ben en fait j'ai accompagné mon fils à son activité au football et donc il faut que je la sorte de la voiture parce que sinon elle est pas contente et ensuite donc elle court partout.
Bon, elle a
2 ans et demi. Elle aura 3 ans en septembre et donc forcément elle voit son frère sortir de la voiture, elle veut sortir elle aussi, donc je la sors, on joue un petit peu. Le problème c'est qu'il y a les gradins, donc il faut que je fasse attention aux gradins, qu'elle tombe pas dans les gradins, c'est du goudron, machin, elle court, et puis donc évidemment elle ne m'écoute pas, et donc elle est tombée, et elle s'est égratignée les deux genoux, donc elle a pleuré, ensuite elle a pas voulu que je la prenne, pas voulu que je la mette en voiture. Et bon, j'ai réussi à... Après, je l'ai fait jouer parce que je suis infirmière, donc j'ai sorti ma sacoche, je lui ai montré, maman va te soigner, et bon, ça s'est calmé.
Mais vous, voilà, vous nous avez dit hors antenne, au standard, que vous n'avez plus de patience devant ce type de situation.
Ben souvent oui, je me rends compte. Alors quand parce que c'est l'un ou l'autre, hein, les colères de mon fils de 9 ans aussi, c'est des fois c'est difficile à gérer. Et pendant la colère, tout à l'heure, le monsieur qui parle avec vous disait, il faut prendre du recul, dire je ne suis pas d'accord, on en reparlera après. J'ai l'impression de me dédoubler, c'est-à-dire je vis la colère en me disant calme-toi, parle-lui, ça va passer. Et puis au final, je rentre dans la colère moi aussi, je n'arrive plus à dialoguer. Et ensuite, alors, je culpabilise, je ne fais pas comme il faut. Enfin voilà. Et je me rends compte effectivement que j'ai moins de patience, j'ai moins de force à gérer certains moments.
Vincent Henry, Christelle Vernet, votre regard sur la situation, les situations vécues par Ornella face à la colère ?
Bon, déjà, ce qu'on peut dire à Ornella, c'est déjà que ce qu'elle décrit, c'est quelque chose quand même d'assez classique. Donc voilà, c'est habituel et c'est vraiment cet enchaînement aussi qui est décrit de ça commence comme ci, puis il se passe ça et cet enchaînement de péripéties qui va entraîner le fait que cette patience n'est plus possible. Ce qui va pouvoir être intéressant, c'est que elle l'a dit au départ, c'est quelque chose qui arrive de manière récurrente. Donc là, pour le coup, on peut anticiper la situation et essayer de voir avec sa fille, qui, rappelons-le, est toute petite. Là, on a bien entendu 2 ans et demi. C'est un âge où le professeur Réva Lévy l'a dit tout à l'heure, où il est normal de faire des colères. Donc de pouvoir quand même anticiper avec elle et de pouvoir dès le départ lui proposer une activité qui va être réalisée sur place en fixant aussi un cadre sur par exemple non les gradins c'est interdit mais par contre regarde on peut se mettre là et faire telle activité et le fixer avec elle dès le départ Et puis, vous l'avez dit aussi, elle sait, elle sent que cette patience est plus difficile. Et donc, de pouvoir l'anticiper, c'est-à-dire qu'on a tous des jours où on est plus ou moins fatigué, plus ou moins patient, et de pouvoir aussi l'exprimer. On le disait tout à l'heure, c'est important aussi que nous, adultes, on verbalise l'émotion. Et donc, de pouvoir dire à cette petite fille, bah, tu sais, moi, quand le matin, quand on amène ton frère au foot le mercredi, ça se passe comme ça, bah, ça me rend triste. Après, je m'en veux que ça se passe comme ça. J'aimerais bien que ça se passe mieux. Comment tu voudrais, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse ensemble? Et puis elle l'a très bien fait, elle a proposé une alternative, elle a trouvé cette idée de cette petite trousse pour soigner ce bobo, et ça c'est vraiment aussi la petite astuce de détourner un petit peu l'attention et de pouvoir voilà, proposer quelque chose dont on sait que l'enfant va être intéressé.
Docteur Vincent Henry, vous le dites très bien dans votre livre, il faut être attentif aux situations récurrentes qui sécrètent de la colère.
Tout à fait, quand les parents nous expliquent qu'ils ont des difficultés avec la colère de leur enfant, systématiquement, il est important d'analyser dans quelle situation, dans quel contexte, et on se rend compte, et les parents se rendent compte des fois rien qu'en nous le disant, qu'il y a des situations où ils disent mais là je savais que ça allait mal finir entre guillemets, et donc si on sait que ça va mal finir, on a la possibilité à ce moment-là, alors ça ne veut pas dire qu'on y arrive à tous les coups, encore une fois, on est humain, mais on va avoir peut-être la possibilité de se dire et de changer la situation en amont pour éviter justement une crise. Il y avait, je me rappelle, une situation d'une maman qui nous décrivait donc des crises qui avaient lieu au supermarché. Et en fait, en analysant très vite la chose, c'était le soir à 19h après une énorme journée de boulot, son enfant était fatigué, elle allait dans un supermarché bondé. Et en fait, à la maman s'arrête et me dit, mais en fait, ça peut pas bien se passer. Donc c'est, il y a vraiment aussi, du coup, comment je fais, du coup, elle faisait des drives, enfin, on essaye de trouver une solution, pour modifier la situation en elle-même qui est génératrice de crise.
Et puis, il faut faire attention à des facteurs comme la fatigue ou la faim.
Tout à fait, qui joue sur la colère de l'enfant et sur la colère du parent. Et ça, effectivement, ce sont des facteurs, on s'en rend pas forcément compte, mais nous, on a tendance à dire souvent, les devoirs, c'est bien de les faire après le goûter, parce que le ventre vide, on ne vit pas les choses de la même manière, et nos émotions, les vagues ne sont pas à la même hauteur.
Allez, il est déjà 10h44, l'heure de retrouver la chronique Ma vie de parent de Gwenaëlle Boulay.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous, hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Alors Gwenaëlle Boulay, vous aussi, vous allez nous parler des émotions des enfants.
Oui, enfin, face à des spécialistes d'une telle connaissance et bienveillance, j'avoue que je me sens un peu comme dans un confessionnal, prête à avouer mes plus terribles péchés en matière de parentalité. Parce que bon, depuis quelques années, on peut dire qu'on en entend parler, hein, des émotions, des centaines d'articles, de bouquins, pour nous dire que nous, les parents, nous sommes censés être les tuteurs émotionnels de nos enfants. Devons les aider à apprivoiser, accueillir leurs émotions, développer leur vocabulaire émotionnel. Alors pour vous, qui, comme moi peut-être, chers auditeurs, n'avez pas pensé à faire un bac plus 12 psycho avant d'imprudemment faire des enfants. En gros, si je traduis, ça donne quelque chose comme c'est mieux de pas s'énerver quand nos petits font des colères, d'écouter ce qu'ils ont à nous dire quand ils sont tristes, jaloux ou contents, de pas hésiter à exprimer nos propres émotions.
Sauf que ce n'est pas si facile que ça.
Et non, personnellement, alors, j'adore écouter mes enfants me raconter ce qui les rend heureux, tristes, leur fait peur, les angoisses. Je trouve vraiment ça magique de les voir tenter d'exprimer avec le plus de justesse possible ce qu'ils ressentent. Franchement, je crois que ça fait partie des plus chouettes moments de parents. Sauf que bon, soyons honnêtes, quand tout ça s'exprime avec des mots, on boit du petit lait. Mais quand ça sort sous forme de colère, de crise, de pleurs, d'hyper-excitation ou de bouderie, là, c'est un petit peu moins sympa.
Et c'est là qu'on fait tout ce qu'il ne faut pas faire.
En effet, avant de venir dans l'émission, j'ai un petit peu feuilleté le livre de vos invités, par curiosité. Et en regardant le sommaire du chapitre « Ces solutions qui n'en sont pas », que nous pourrions reformuler par « Les grosses conneries à ne pas faire », je crois pouvoir dire que j'ai à peu près tout essayé.
Par exemple ?
Par exemple, les punitions. Les punitions, les punitions, la méthode du parent démuni, la solution finale du parent en déroute. En début d'année, par exemple, avec ses nouvelles maîtresses, notre fiston revenait chaque semaine avec des points rouges de comportement. Parce qu'il avait trop remué en classe, il avait joué avec sa règle, il avait parlé sans lever le doigt. Bon, des points rouges toutes les semaines. Bon, eh bien, alors qu'il était évident qu'il avait juste un petit peu trop d'énergie et d'excitation à canaliser, et qu'une punition supplémentaire à la maison ne résoudrait absolument rien au problème, bingo, je vous le donne dans le mille. J'ai sorti de mon chapeau un bon petit « Bon, au prochain point rouge, tu peux dire au revoir pendant un mois à ton vaisseau Lego Bounty des Caraïbes. » Le lien, aucun. L'aide apportée, aucune. Mais bon, voilà, ce soir-là, entre ça et relire un chapitre complet de « Papa, maman, écoutez-moi vraiment », mon choix était vite vu.
Autre erreur fatale.
Bah oui, forcément, vouloir absolument qu'ils comprennent. Oui, parce que nous, les parents d'aujourd'hui, on ne veut pas que nos enfants obéissent. Non, 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 ça c'est sauf 20e siècle. Nous, on veut qu'ils adhèrent, qu'ils soient d'accord. Et pour ça, on est capable de parlementer, de négocier, de raisonner pendant des plombes, dans l'espoir que notre enfant de 6 ans nous dise quelque chose du genre « Mais oui, maman, t'as raison, j'ai eu tort de me mettre en colère suite à cette frustration. » Maintenant que tu me l'as expliqué, je sens que désormais je ne réagirai plus de la sorte. Ben ouais, mais ça se passe pas comme ça. Alors parfois, ben voilà, poser un cadre clair, mettre fin à une crise rapidement afin que l'enfant ne soit pas non plus noyé dans ses propres émotions, c'est aussi ça l'aider.
Car pour vous, Gonelle, accueillir les émotions, ce n'est pas tout accepter ni les vivre à leur place.
Ben oui, au risque de m'attirer quelques remarques peut-être choquées, j'avoue que si j'accorde aux émotions une place privilégiée, après tout, elles constituent notre personnalité, j'ai de la peine quand je vois autour de moi certains parents être devenus complètement esclaves des émotions de leurs enfants, ou bien les vivre à leur place. Être à ce point terrifiés par les émotions de leur progéniture qu'ils n'arrivent même plus à prendre un peu de distance et à poser la digue pour faire cesser le tsunami. Donc oui, peur, colère, frustration font bien sûr partie de nos vies, mais en dehors de cas pathologiques, elles n'ont pas non plus à les envahir ni à nous envahir. Alors accueillons, écoutons, essayons de comprendre, mais ne volons pas non plus les émotions de nos enfants en voulant les vivre à leur place, et osons leur offrir un écrin sécurisant avec des limites et des cadres.
La chronique Ma vie de parent à podcaster et à partager sur l'appli France Inter. Dans un instant, d'autres outils pour accompagner les émotions de vos enfants et petits-enfants. On écoute Gaëtan Roussel et Alain Souchon qui interprètent Sans sommeil à 10h48.
Les rues comme mes poches sont vides. Les avenues si calmes sont l'air bolide. L'air est plus clair, paraît plus limpide. Personne ne joue, le temps est humide. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, où sont les commerces, les glucides? Et ma monnaie, même timide. J'entends que la vie se vit sous vide. La mienne comme mes poches reste vide. Rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, splendide. Tant de sauver grâce à vous qui sortez courageux, solide. Je voudrais faire un geste, un don rapide. Mais mes poches, comme les rues, restent vides. Rien ne semble plus pareil. Dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur, rien ne semble plus pareil. Là dans les intérieurs, tout semble sans sommeil. Vu de l'extérieur.
Gaëtan Roussel et Alain Souchon interprétés Sans sommeil.
Grand bien vous fasse, Ali Rebéi, sur France Inter.
Comment accompagner les émotions des enfants? C'est notre thème ce matin. Coup de projecteur sur la colère ce matin. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale. Je vous propose d'écouter Yelena dans les maternelles en 2018.
Tu manges ta carotte?
Non.
Tu manges tes carottes, t'as le droit à quelque chose derrière. Tu manges pas tes carottes, t'auras le droit à rien.
La consigne est claire. Quelques carottes râpées contre un dessert. Mais Yelena, 4 ans, ne l'entend pas de cette oreille.
Je veux pas de carottes.
tu ne fais pas ça.
Après 20 minutes de négociation, la sentence tombe. La petite fille est privée de dessert. Une punition qui la met totalement hors d'elle.
Non, tu t'assois.
Maman, il veut pas.
Non. C'est trop tard, c'était à table qu'il fallait les manger. Non, 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 Yéna. Non, Yéna. Non. Mais bien sûr, je les range.
Des colères quotidiennes qui surviennent pour n'importe quel prétexte.
Dès qu'elle est contrariée, ben ça va dans tous les sens, quoi. Elle veut pas manger ses carottes, et puis au bout d'un moment, ça finit par une crise, par ben, je me lave de table, je crie, je pleure. Si on cède, ben, tout va bien. Si on cède pas, ben, ça continue, ça peut s'apaiser, mais ça met du temps.
Extrait des maternelles en mai 2018, professeur Anne-Réva Lévy, comment ne pas céder face à une crise de colère de ce type ?
Alors je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous déplaire, mais de temps en temps faut céder quoi. Il y a des choses sur lesquelles il faut céder, il faut pas se battre pour tout, il faut hiérarchiser. L'apprentissage de l'autorité parentale et des besoins de l'enfant peut se faire aussi dans des choix où il y a des choses importantes et des choses pas importantes. Manger des carottes c'est important, mais plus ou moins. Ce qui est très important par exemple, c'est que un enfant doit pas taper ses parents dans des crises de colère,
les
il
mordre.
Doit pas mais oui, les mordre, il y a des choses comme ça pour lesquelles il faut pas céder, mais il faut aussi dans l'expérimentation des débordements que les parents puissent céder sur certaines choses, sinon tout se rigidifie et on ne s'en sort plus.
Vincent Henry, Christelle Vernet, je rappelle que vous êtes les co-auteurs de 100 idées pour accompagner les émotions des enfants et des adolescents. Comment gérer cette colère là?
Pour revenir sur ce qu'a dit le professeur Réva Lévy, je suis d'accord sur le fait qu'il faut clairement des fois faire des choix. Vous avez des enfants qui ont des tempéraments plus difficiles que d'autres et donc qui vont faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère ou que la simple frustration va entraîner une colère disproportionnée. Donc l'idée, c'est effectivement qu'est-ce qui est important et effectivement, est-ce que le lit soit plié, j'exagère, hein, je fais un peu de... Voilà, que le lit soit bien rangé avec le drap du dessous, le drap du dessus, etc. Est-ce que c'est si important que ça? L'important, par contre, quand même, c'est que alors ça demande une anticipation, mais on dit aux parents de effectivement choisir leur bataille, mais que par contre une fois qu'ils ont posé une règle ou qu'ils ont posé quelque chose, la question c'est d'essayer de le tenir, parce que quand même ce qu'on repère aussi c'est que quand un parent donne un ordre ou donne une consigne et que celle-ci n'est pas réalisée par l'enfant et qu'il ne se passe rien derrière, ça renvoie un peu à l'enfant le fait que, ben, en fait, je fais un peu ce que je veux. C'est-à-dire que mon parent me dit des choses, mais en fait, c'est des informations. Et donc, je veux que tu arrêtes, par exemple, je veux que tu ranges ta chambre, va ranger ta chambre. Et puis, ça se fait pas. Et au final, le parent le fait. Eh bien, là, cette manière de céder là est plutôt négative parce qu'elle va renforcer le fait que l'enfant n'obéit pas. Voilà. Donc, si on fait réfléchir avant de faire une demande à l'enfant ou avant de lui imposer quelque chose, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que j'ai l'énergie à me battre s'il dit non? Par contre, si on l'a imposé, eh bien, tenir cette chose-là. Ça renvoie aussi au fait qu'il y a des bonnes crises, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des crises qui sont importantes et c'est important qu'elles aient lieu.
Est-ce que vous pouvez aider Natacha qui nous dit « Mon fils de 7 ans entre en colère pour faire ses devoirs. Je lui ai proposé de jouer 30 minutes avant les devoirs, puis 30 minutes pour les devoirs, mais ça ne marche pas quand c'est l'heure des devoirs, la colère revient et il ne veut pas les faire. Quelles sont vos suggestions sur la façon de résoudre cette colère ? Christelle Vernet.
Oui, alors les devoirs c'est vraiment un sujet épineux et c'est des choses que l'on rencontre beaucoup en consultation. Ce que peut-être pourrait faire cette maman, c'est de lui demander à lui comment il voudrait faire. Alors ça ne marche pas à tous les coups, mais on peut parfois être surpris. J'avais l'exemple d'un petit patient qui voulait jamais aller se laver. Et puis on avait tenté ça, quand est-ce que toi tu voudrais te laver? Et puis ce jeune garçon qui avait à peu près le même âge dit « moi je veux me lever le matin ». Et là la maman me regarde, mais le matin, mais c'est impossible déjà qu'il est jamais prêt à l'heure, le matin ça ne marchera pas. Et donc je propose à cette maman de tenter et finalement ça s'est extrêmement bien passé et il se lavait sans problème le matin, il n'y avait pas de crise. Donc des fois on a tendance adulte à voir nous notre organisation, ce qui est normal aussi parce qu'on a nos propres choses à gérer, en particulier le soir où il y a beaucoup de choses à faire en un laps de temps assez court. Mais on peut parfois être surpris de la réaction des enfants lorsque c'est eux qui donnent leur avis aussi sur comment organiser les choses.
En quelques mots, c'est une question récurrente ce matin, comment gérer les crises de colère dans les lieux publics ? Ce sont des moments très gênants pour les parents. Professeur Anne Révalévi.
Déjà, se souvenir que tout le monde a vécu la même chose. Oui. Donc les gens qui vous regardent ont vécu la même chose. Donc soyez tranquille si vous pouvez. Il y a voilà ceux qui c'est voilà première chose. La deuxième chose c'est que il faut essayer de garder les mêmes réflexes que si on était à la maison en essayant de bien identifier que les autres c'est pareil pour tout le monde. Sinon on perd ses moyens en fait. Donc c'est ça. Le plus dur, c'est de ne pas se sentir violenté par le regard des autres et de récupérer sa propre dynamique.
Allez, au terme de cette émission, petite synthèse pour réguler la colère des enfants et des adolescents. Rappelez-nous vos grands commandements, vos tables de la loi, docteur Vincent Henry, Christelle Vernet, professeur Révalévi.
C'est dur, je trouve.
Je sais, c'est pour ça que je vous pose la question.
De pas rester seul avec ça. Ça, c'est un truc important. Parce que il y a vraiment cette boucle, j'y arrive pas. C'est la question de la compétence parentale, c'est un sentiment aussi qui est très minant. Hein, et ça fait ce cercle vicieux. C'est j'y arrive pas. Je suis même pas fichu de réussir à gérer mon enfant. Donc vraiment de pas rester seul, d'avoir des conseils, d'être accompagné, alors par des proches ou par des professionnels. Parce que clairement, on espère que le message est passé. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire qui alors ça transforme pas, c'est pas universel, ça transforme pas tout, ça n'enlève pas toutes les crises, mais où très vite nous les parents nous disent ah bah quand même là maintenant je me sens plus armé, il y a plein de situations où j'aurais pas su comment faire ou maintenant je sais comment faire, donc voilà ce serait ce que je dirais.
Anne Révalévi.
Protégez vos enfants de la violence permanente de la radio, la télé.
Pas grand bien vous fasse. Hein.
Non, justement, j'allais vous dire pas grand bien vous fasse. Déjà vous parviendrez à limiter un peu cette espèce d'effraction continue de colère, de violence, et ça leur fera du bien.
Merci à tous, merci Christelle Vernet, Vincent Henry, je recommande vraiment votre livre très pratique, 100 idées pour accompagner les émotions des enfants et des adolescents, c'est publié chez Tom Pouce. Merci professeur Anne Révalévi, je signale que vous avez publié un roman d'amour au Mercure de France,
absolument.
Ça s'appelle À ma reine.
Absolument.
Demain on s'intéresse aux bienfaits du pain.